Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus sur le 90.8 et c'est l'heure de l'apérophonie. Alors ce soir on est avec Ilkian et Imad, salut.
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 Et on va parler de Céleste qui est un jeu vidéo de plateforme, un jeu vidéo indépendant en deux dimensions et en pixel art. Donc ça veut dire que les pixels sont visibles dans les visuels. Et il a notamment remporté le prix du meilleur jeu indépendant lors des Games Awards en 2018. Donc dans cette émission, on va découvrir le jeu, sans le spoiler, et on va essayer de comprendre pourquoi Céleste a autant de succès.
Ouais, mais là, comment je fais du coup ? C'est tellement dur. Allez, Ameline, courage ! Lâche ma gueule, je suis censé faire quoi, là ? Attends, mais je veux résoudre. Comment je fais ? Mais comment je fais du coup ? Ah, mais le problème, c'est ça ! Non, je vous jure, c'est impossible. Je suis censé faire comment, là ? Comment je fais, là ? Comment je fais ? Oh, ça va être tellement dur. Ah ! Comment je suis censé faire, là ? Ah, j'ai tout cassé, frère. Je vais tout casser dans la baraque. Ça se voit pas sur mon visage parce que je suis masqué, mais je vous jure que j'ai envie de tout casser, là. Bon, attends, parce que là, du coup, ça va être chaud. Non, mon niveau de jeu, exceptionnellement nul. Ah, je me précipite ! Le jeu commence à me tendre. Oh, purée, je n'ai pas une patience infinie. Je vais péter les plombs. Mais je suis le pire joueur de l'histoire de l'humanité, frère ! Putain, c'est trop dur. C'est impossible. Comment je fais, là ? Parce que là, je peux pas y aller. Non, je peux pas. Ouais, c'est bien, mais après, je suis coincé, là. Je suis coincé, comment je fais ? Putain, c'est dur. C'est dur, frère. Non, vas-y, ça me tend, ça commence à me tendre. J'étais en train de concentrer tous mes neurones. Je vais casser la manette. Je meurs tellement bêtement. Oh, je vais tout casser. J'ai failli jeter la manette. Bah voilà. Je vais hurler et mes voisins, ils vont m'enculer, en fait. Je vais tellement hurler. C'est tellement dur. Mais le jeu, il est infernal, alors, à un moment, si ça, c'est facile. Non, j'avoue que c'est dur. C'est du vrai platforming, là. C'est du platforming qui plateforme. Oh, purée. Non, le jeu est dur, le jeu est dur. Je m'excuse d'avoir dit que le jeu n'était pas dur. Ah, je fais exploser la manette. Non, c'est trop dur, frère. Je vais péter les plombs. Eh, je vous jure, j'ai envie de dire des trucs tellement hardcore. Mais c'est pas de Twitch que je vais me faire ban, c'est du territoire français, en fait. Je vous jure, c'est impossible. Là, j'ai fait comme Doctor Strange. J'ai théma tous les univers possibles. Il n'y en a pas un où je peux le faire. Non, je vous jure, c'est trop dur. Comment je peux faire ? Et là, on est d'accord, je peux pas, là. Là, je peux pas, on est d'accord. Non, je vous jure, je peux pas. Je vous jure, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je vous jure, c'est trop dur. Non, mais c'est impossible. Mais pourquoi ? C'est le jeu le plus difficile que j'ai jamais joué de ma vie, frère. Ah, vas-y, c'est trop dur, mais c'est faisable.
Ok. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du jeu vidéo qui soigne la dépression. Donc vous avez pu l'entendre, ça a l'air vraiment difficile. Donc je vais commencer par décrire un peu quel genre de joueur je suis. Ensuite, on va parler un peu du jeu et on va échanger un peu sur ce dernier avec Alice et Imad, du coup. Sachant qu'Alice ne connaît pas vraiment les jeux vidéo, du coup ça peut être très intéressant, je pense, de répondre à ces questions. Je joue depuis toujours, donc presque. J'ai joué à un peu tout, des jeux de course, des jeux calmes, des jeux contemplatifs, des jeux de bagarre, des jeux de guerre... Et au lycée, j'ai découvert LOL, qui est un jeu compétitif, nerveux, très stressant et très addictif, surtout. Et donc, il y a ce conflit en moi où j'aime d'un côté les jeux à la cool, détente, mais je suis addict à un jeu qui en est tout le contraire. Et League of Legends commence à prendre une place énorme dans ma vie. Je sèche les cours pour jouer, je saute des repas, des nuits de sommeil. Enfin bref, ça s'intensifie quand j'arrive à l'université, parce que je suis livré à moi-même. Et c'est vraiment pas la joie, c'est-à-dire que c'est peut-être l'apogée du mal-être, je pense. Et je commence à faire une overdose du jeu, il était temps, parce que je jouais vraiment minimum 10 heures par jour, alors j'ai eu envie de tester autre chose. Et je vois un petit jeu qui m'intrigue depuis un petit moment, en promo. Et à ce moment-là, je savais pas du tout de quoi il s'agissait, sauf son nom, Céleste. Et tout ce que je sais de Céleste, c'est que c'est un jeu de plateforme. En gros, on doit aller d'un point A à un point B, et sur le chemin, il y a des obstacles, qu'on franchit en enchaînant des appuis de boutons. Et les jeux de ce genre que je connais, bah, il n'y a pas de scénario, parce que ce qui compte, c'est la créativité des développeurs pour que le joueur découvre de nouvelles mécaniques originales, etc. Ma référence à moi, c'est les Mario, qui sont très faciles, grand public. C'est des jeux qui sont faits pour être joués en famille, en gros. Donc je lance le jeu, et déjà, waouh, c'est vraiment beau. C'est un style très particulier du pixel art, c'est-à-dire des dessins de pixels en 2D, un peu rétro, et c'est beau. Et les musiques, donc vous pourrez les entendre un peu plus tard, c'est un régal. Donc le jeu fonctionne sous forme d'écran, on a un petit challenge à franchir, et quand on passe un écran, on arrive au suivant. Et quand on a fait la cinquantaine d'écrans d'un chapitre, on passe au chapitre suivant. Maintenant, j'aimerais préciser que, étant quelqu'un qui, pour rappel, joue depuis toujours, j'ai estimé que j'étais plutôt fort aux jeux vidéo, en vrai. Et dès le début, je vois qu'il y a un semblant d'histoire. Bon, elle est très discrète, très subtile, mais il y a une histoire. Et donc, la jeune femme que j'incarne se murmure à elle-même « Ça y est, Madeline, respire bien. Pourquoi es-tu si nerveuse ?» Puis on rencontre une grand-mère. Elle nous dit qu'on n'est sûrement pas prête à grimper la montagne, que celle-ci pourrait s'avérer trop dangereuse pour nous. Puis elle rit, et Madeline trouve ça bizarre. Donc j'avance, et je me rends compte assez vite que c'est vraiment, vraiment pas facile. Je meurs beaucoup, et je suis un gars qui est frustré très facilement. Si c'est trop dur, ça me saoule, et j'arrête. Mais là non, je sais pas encore expliquer pourquoi, mais je m'en fous de mourir 50 fois pour un écran. Je recommence encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que j'y arrive. Parfois je bloque, ça m'énerve, mais je finis toujours par réussir. Donc j'avance dans le jeu. Le premier niveau est en vrai assez simple, je galère un peu mais pas assez pour m'énerver, juste au moins pour me frustrer un petit peu. Et juste avant la fin, je vois ce monument, une grande pierre avec gravé dessus « Ce monument est dédié à tous ceux qui ont péri dans l'ascension ». Et au deuxième niveau, j'entends ceci. Et bon, là, je commence à comprendre qu'il se passe quelque chose. Je sais pas trop encore quoi, mais j'aime trop ça. Et après quelques difficultés, je rencontre un personnage très, très important que la communauté a décidé d'appeler Bad Lin. Même si vous verrez pourquoi en jouant par vous-même, c'est pas hyper juste. En gros, Bad Lin, c'est un peu nous-mêmes en version sombre, une forme un peu démotivante, un peu méchante limite. Et dans notre discussion, elle essaye de nous dissuader de gravir la montagne, qu'on n'en est pas capable, c'est impossible, parce qu'on n'est pas une alpiniste. Et même si on l'était, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Et là, elle commence à nous poursuivre. Et la musique change pour devenir ceci. Et donc, on peut entendre cette musique, elle est vachement stressante quand même. Donc on a ce personnage qui nous poursuit, ça va très vite, et la musique intensifie ça. Et quand le personnage nous touche, on meurt et on recommence. Et bon, là j'aimerais vous faire une petite référence à une vidéo qui est sortie récemment, que j'ai vue sur le sujet. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Arcade, qui a une série qui s'appelle Script. Et dans leur vidéo sur Céleste, ils nous donnent beaucoup d'analogies super sympas. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment exceptionnelle. Et je ne vais pas toutes les donner, les analogies, parce que ce serait vraiment une insulte à leur travail pour le coup de juste les retranscrire comme ça et que ça dure très longtemps. Donc, allez voir leur vidéo directement. Mais ils expliquent que Madeline, qui représente cette partie que Madeline essaye de rejeter, en recopiant nos mouvements, nous force à penser nos actions différemment. Et c'est un peu le mode de fonctionnement de la dépression. On a un mode de vie qui ne convient pas à notre corps puisqu'il nous envoie des alertes, notre santé mentale flanche, et là, on a du coup, il faut penser nos actions différemment, il faut agir différemment pour réussir à avancer dans les niveaux et donc avancer dans la vie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les explications de mon expérience et les analogies, etc. Je pense que c'est important de laisser à chacun une part de découverte quand même. J'aimerais juste mentionner que ce jeu m'a personnellement énormément marqué dans ma vie. Surtout un passage en particulier dont je parlerai peut-être plus tard avec Alice, qui m'a, en fait, ce jeu m'a vraiment aidé au sujet de crise d'angoisse. C'est une des très très nombreuses leçons que le jeu nous enseigne. Voilà, il fallait que je cale ça là. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite, je pense.
Eh ben, merci Ilkan pour ton témoignage de, je veux dire, ta relation, ton histoire avec le jeu. Je me demandais, t'as l'air d'avoir vraiment consacré beaucoup de temps. Tu saurais dire combien d'heures t'y as passé ?
Alors, ça fait peur de dire ça comme ça, mais j'ai passé au total 40 heures sur le jeu, réparti sur un an et demi à peu près.
40 heures, ça semble pas énorme au final ?
À l'échelle d'un jeu vidéo, c'est vrai que c'est vraiment peu. 40 heures, sachant que j'ai vraiment fait le tour du jeu de A à Z, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment complété le jeu à 100%, presque.
Ok, voilà. Parce que 40 heures, ouais, on pourrait se dire que ça peut se faire en une semaine, quoi.
Oui, en soi, oui. Le jeu est clairement, je pense que c'est possible d'y jouer énormément, d'affilée sans vraiment se lasser, vu la variété qu'il y a. Je pense qu'Imad pourrait confirmer ce que je viens de dire.
Ouais, bah franchement, il y a une fois où j'ai commencé à jouer à 1h du matin, je me suis dit que j'allais faire un peu de mon niveau, j'allais un peu avancer, et je me suis retrouvé la seconde d'après, il était 4h du matin, et je voulais toujours continuer à jouer, quoi.
Voilà.
Donc 40 heures à peu près.
Là-dessus. C'est ça.
Et Louis, donc le technicien de la radio, il me disait qu'il était mort 22 000 fois. vous êtes mort combien de fois ?
Pour moi, je crois que ça doit tourner autour des 20 000 aussi, mais je suis à 90% du jeu, j'ai pas encore tout fini.
Voilà, et pour moi qui ai fini le jeu, je suis à 17 000. Voilà, j'ai fait 17 000 en finissant entièrement le jeu.
Et bravo.
Merci.
Donc ce jeu, c'est combien de niveaux au total ?
Il me semble qu'il y en a 9. Alors, sachant que y a, chaque niveau a différentes variantes. Voilà. Donc chaque niveau, on peut le compléter plusieurs fois.
Les variantes, c'est les faces A, B, C ?
Exactement, c'est exactement ça. Alors, en gros, on fait d'abord la face A d'un niveau. Et dedans, on peut trouver cachées des cassettes qui sont la face B. C'est-à-dire, en gros, on a les mêmes mécaniques du niveau, mais donc une musique similaire, un remix, mais en beaucoup plus compliqué cette fois-ci. Donc, c'est pour les personnes qui veulent vraiment du challenge additionnel. C'est totalement optionnel pour finir le jeu, mais c'est là, quoi. Le contenu est là.
Ça veut dire que ça va être les mêmes mécanismes ? Tu veux dire c'est les mêmes pièges à déjouer, les mêmes façons de les contourner ?
C'est ça. Alors en gros, le jeu est construit d'une telle manière, c'est que chaque niveau a une identité visuelle et sonore propre, et chaque niveau a des mécaniques propres. Par exemple, tu as un niveau avec des plateformes qui vont se déplacer, un niveau avec des bulles dans lesquelles tu peux rentrer pour te projeter dans une direction, etc. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on nous introduit à chaque fois une nouvelle mécanique de jeu, qui va être par exemple les plateformes sur lesquelles quand tu marches, t'es propulsé dans une direction, et au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de difficultés autour de ces plateformes. Voilà. Et ces mécaniques de plateformes sont en soi, dans le niveau, pas si compliquées, c'est-à-dire qu'avec un peu d'acharnement, on peut y arriver. Dans la phase B maintenant, on a ces mêmes plateformes, sauf qu'elles vont être peut-être plus petites, plus rapides, il va falloir passer dans des trous plus petits derrière, et en fait, c'est ça avec tous les niveaux.
Voilà. C'est pousser un peu la technique qui est déjà sur la phase A.
Exactement, c'est ça.
Et la phase C, c'est quoi ?
Alors la phase C, du coup, une fois que tu as complété toutes les phases B des niveaux principaux, tu débloques une phase C qui est en gros, encore une fois, les mêmes mécaniques, sauf que cette fois, ce sera poussé à un niveau de difficulté extrême où il faudra être vraiment calé parfaitement sur le niveau. Donc ça va être des niveaux plutôt courts, mais très très intenses en difficulté. Voilà.
Et tu disais, le but c'est d'escalader, donc le but du jeu vraiment c'est d'escalader le Mont Céleste. Mmh. Est-ce que physiquement on voit qu'on arrive de plus en plus haut, de plus en plus proche du sommet ?
Alors oui, on le voit très bien parce qu'en fait on a donc une carte qui permet de sélectionner les niveaux et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, notre personnage en gros se déplace sur la carte et puis on a le niveau 1 qui est situé en bas de la montagne, le niveau 10 qui est situé un peu plus haut et un peu plus haut, etc. Et il y a une évolution aussi dans les décors où à la fin, bon voilà, sans vouloir en dire trop, on est vraiment, il y a des tempêtes, c'est vraiment, on est au sommet de la montagne, quoi.
On le sent.
Voilà.
Et pourquoi en fait il faut gravir cette montagne ? C'est quoi l'objectif du jeu ? Pourquoi cet objectif en fait ?
Alors, donc là je vais rentrer un peu dans le pourquoi Céleste m'a marqué en fait, c'est que le jeu parle de cette montagne, on ne sait pas pourquoi Madeline veut la gravir. On sait qu'elle n'est pas alpiniste, on sait qu'elle n'a rien à faire là-bas. Pourtant, elle veut gravir cette montagne et elle le fera, elle y est déterminée. La raison derrière maintenant, elle est un peu floue et un peu obscure et c'est volontaire de la part des développeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on n'a pas d'objectif fixé déjà par le jeu, on peut se fixer le nôtre en fait. Donc gravir cette montagne, c'est un peu une sorte de métaphore pour un objectif qu'elle s'est fixé. C'est un truc qu'elle veut faire et qu'elle fera, peu importe ce qui va venir en travers de son chemin, en fait. C'est un projet qu'on a, c'est une difficulté qu'on rencontre, c'est un état dans lequel on est, qu'on veut surmonter, etc. C'est, en fait, la montagne, c'est tout.
C'est très imagé comme,
exactement,
comme objectif.
Ouais.
Et comment elle se déplace, Madeline ?
Alors, Madeline, du coup, on a des déplacements qui sont très simples, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer de droite, gauche, sauter et faire un petit dash. En gros, c'est-à-dire que quand on est en l'air, on peut se repropulser dans une direction, en haut, en bas, à gauche, à droite, peu importe. Et c'est... Elle peut aussi s'accrocher au mur, bon, voilà, pendant quelques secondes avant de se fatiguer. Donc c'est des mécaniques très très simples, très très basiques. C'est vraiment très 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 simpliste. En fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est pas tant les déplacements du personnage qui vont être compliqués, c'est très facile à maîtriser, mais le niveau en fait qui va changer et s'adapter en fonction des déplacements qu'on fait. Voilà.
Et tu dis que on peut se déplacer de droite vers la droite ou vers la gauche. Ça veut dire, parce que moi, ma référence, c'est vraiment Mario Bros. Mm-hmm. Donc pour moi, on pouvait dans Mario Bros. En tout cas, on peut se déplacer que vers la droite. Mm-hmm.
Alors là, non. En fait, bon, Mario Bros, c'est volontaire que les niveaux soient de gauche à droite. C'est une méthode un peu de manipulation psychologique pour que le joueur comprenne par lui-même où il faut aller. Et mécaniquement, quand tu joues à Mario, tu sais qu'il faut aller à droite. Là, en l'occurrence, dans Céleste, c'est souvent vers le haut qu'il faudra aller vu qu'on gravit une montagne. Et donc, en général, t'apparais en bas de l'écran et ton but, c'est d'aller en haut pour passer à l'écran suivant, quoi. Donc, en fait, tu vas souvent utiliser la mécanique de saut et de dash pour te retrouver en haut, parce que tu vas sauter, puis dash en haut pour te retrouver quelque part de plus haut, etc.
Ça veut dire quoi, dash ?
Dash, c'est quand t'es en l'air, en fait, tu sautes, t'es en l'air et tu peux te repropulser dans une direction. Voilà. Donc, en fait, ça permet d'avoir une sorte de double saut si tu veux sauter dans les airs, en fait. Voilà.
Et est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle le gameplay ?
Alors, le gameplay, ça l'inclut, mais c'est bien plus vaste que ça, en vérité. En fait, dans un jeu, t'as trois composantes principales qui vont être les graphismes, donc en gros, ce que le joueur voit, et donc tout l'environnement sonore qui vont être les musiques, les sons, etc. Et en troisième, le gameplay qui va être du coup en fait le joueur, comment il se déplace, les éléments avec lesquels il peut interagir, comment le monde est construit. En fait, le gameplay, c'est vraiment tout ce que le joueur a à sa disposition pour finir le jeu, quoi. Voilà.
Ok.
J'espère que c'est assez clair, je suis désolé, j'essaie de...
Ouais, par exemple, les petites fraises, là, tu disais qu'il y avait des fraises qu'il fallait attraper. Uh-huh. Ça fait partie du gameplay.
C'est ça. Donc les fraises, ça fait partie du gameplay. Pourquoi ? Alors les fraises, en gros, c'est des petits collectibles qui sont répartis un peu à droite à gauche dans les niveaux, qui sont totalement optionnels. Tu peux les prendre si t'en as envie ou les esquiver. C'est à chaque fois des mini-challenges qui vont te prendre quelques essais, plus ou moins selon la difficulté. Et quand tu les as... Ben, t'es content, et voilà, c'est tout. C'est juste un petit challenge personnel que le joueur peut se donner s'il en a envie, c'est optionnel, et voilà, ça fait partie du gameplay, en effet.
Et est-ce qu'on sait la cause profonde du mal-être du personnage principal ?
Alors, on la sait, oui et non. Pourquoi ? Parce que quand le jeu est sorti, il n'y avait pas de raison officielle. En gros, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure avec la montagne, un peu au joueur d'attribuer sa propre raison. Et plus tard, donc, dans des interviews et tout, une fois que qu'il y a un niveau additionnel qui est sorti après le jeu, parce que les gens aimaient bien, et du coup, ils se sont dit, bon, on va faire une suite, histoire que les gens soient contents. Et quand ça, c'est sorti, il y a la fondatrice, enfin, la développeuse principale du jeu, Maddie Thorson, qui est une femme trans, qui a dit qu'en gros, le personnage principal de Madeline était trans aussi. Donc, c'est une raison qu'elle a ajoutée plus tard. N'empêche que c'est jamais dit explicitement dans le jeu. Donc, en gros, c'est une info cool à savoir. Mais dans le fond, chacun y attribue sa propre raison, puisque Madeline, c'est un peu nous, au fond. Voilà.
C'est un peu, ça reflète un peu le mal-être de la personne qui joue, qui va s'identifier à ça.
C'est ça.
On va faire une petite pause musicale avant de continuer sur cette émission.
Yeah.
Et on est de retour sur Radio Campus, toujours à la pyrophonie. On vient d'écouter une musique du jeu Céleste qui s'appelle Confronting Myself. Mm-hmm. Qui, à ce que j'ai compris, arrive à un moment clé de l'histoire du jeu. Mais on ne dira pas lequel pour ne pas spoiler. Donc on est toujours avec Ilkan et Imad qui nous parlent de leur histoire avec ce jeu. Qui raconte à quel point c'est difficile. J'ai une question. Pourquoi on n'abandonne pas? Pourquoi on lâche pas ce jeu, tout simplement, si on meurt 22 000 fois au bout d'un moment?
Alors, ça me fait très plaisir que tu poses cette question en vrai, parce qu'il y a un moment qui m'a vraiment beaucoup marqué avec ce jeu. C'est quand Imad, du coup, qui est avec nous aujourd'hui, qui est mon coloc, a joué au jeu pour la première fois. Donc en gros, il débarque dans ma chambre comme ça, je le fais jouer au jeu, et dès le début, il meurt. C'est-à-dire que dès le début, il meurt, et je l'entends commencer une réaction où il fait « Oh, mais !» Et d'un coup, il se calme et il reprend la manette en jeu comme si c'était rien passé. En gros, il allait s'énerver. Et puis finalement, il s'est dit, bon, en vrai, il n'y a pas besoin de s'énerver. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les jeux vidéo en général, ce qui se passe, c'est que quand on meurt, t'as un grand écran avec écrit « Vous êtes mort » en rouge. Ça te fait perdre de l'argent, tu perds du temps. En fait, c'est très punitif de mourir dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que le joueur va tout faire pour éviter la mort parce qu'il n'a pas envie de repasser par les 30 secondes d'attente, etc., etc. Donc, il va essayer de toujours se concentrer pour jouer le mieux possible. Dans Céleste, ils ont voulu prendre le problème à contre-pied. Pourquoi? Déjà pour accompagner le gameplay. Ils se sont dit quitte à faire un jeu difficile, autant que les gens prennent du plaisir à jouer. S'ils doivent attendre 30 secondes dans chaque mort, ils ne vont jamais finir le jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu meurs, tu as ton perso qui disparaît. Et une seconde après, il réapparaît et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. La musique ne s'interrompt pas, il n'y a pas 30 secondes d'attente, il n'y a pas 10 000 cinématiques, tu ne perds pas d'argent, je ne sais pas quoi. Tout ce qui se passe, c'est que tu as plus 1 sur ton compteur de mort à la fin et c'est tout. Voilà.
En fait, c'est une logique différente. Au lieu de faire un jeu où tu meurs plus difficilement et qu'il soit plus punitif quand tu meurs, là, c'est plutôt de laisser erreur, quoi.
Exactement. Alors, je sais pas si t'as sorti ce terme sans exprès, mais c'est incroyable parce que le style de jeu s'appelle Die and Retry. Donc, tu meurs et tu recommences. Et alors, bon, je peux rentrer un peu dans les détails, je me permets. Mais en gros, ça a été choisi. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois dans cette logique de vouloir rapprocher le gameplay, donc la manière dont le joueur joue avec toutes ces analogies de psychologie, etc. Où en gros, on se dit, ok, t'as un personnage qui est face à des problèmes mentaux, il a du mal à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter de nouvelles choses, se manger, réessayer. Tenter de nouvelles choses, se manger, se réessayer en boucle. Et du coup, la meilleure manière de faire ce jeu-là, c'est de faire du die and retry, en fait. De montrer que c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des erreurs, tu vas toujours finir par y arriver, voilà.
Et die and retry, donc il y a plusieurs jeux qui sont comme ça. Et
c'est une catégorie de jeux, en fait. C'est très vaste, t'as quelque chose à dire?
Ça. Mais c'est par rapport au die and retry, c'est que c'est même pas que c'est pas dérangeant de mourir, c'est que, en fait, quand on joue à Céleste, on a l'impression qu'il faut mourir pour passer de ce niveau. C'est-à-dire que le niveau, on arrive dedans, on sait pas quoi faire, et je vais aller me suicider 10 fois de suite au même endroit s'il faut pour comprendre le mécanisme que j'ai besoin pour passer le niveau. Donc, en fait, si on meurt pas, à part si on est un génie, c'est impossible de passer le jeu. Il faut mourir, ça t'aide et c'est bénéfique.
En fait, c'est une façon de comprendre où est-ce que tu dois aller.
Exactement, c'est ça. En fait, tu vas tester un truc, voir que ça marche pas grave. Tu testes autre chose, c'est pas grave, ça marche pas grave. Ah, cette fois-ci, ça a marché, t'as passé le niveau. Tu vois.
Et tu peux pas attendre et genre, regarder, analyser
Alors, justement, tu pourrais en soi, mais à quoi bon, puisque la mort ne coûte rien. En fait, tu vas te jeter dans le tas, mourir et recommencer. S'il y avait 40 000 cinématiques et des messages à passer pour dire, ok, vous êtes mort, maintenant vous allez recommencer, nanana, personne ne ferait ça. Là, le jeu, en fait, t'incite à te jeter dans le jeu et bonne chance, quoi. Voilà.
Et à part ça, donc ça c'est ce qu'on appelle le game design.
Alors non.
Non.
Le game design, qu'est-ce que c'est? C'est en gros comment tu vas placer tes éléments dans ton niveau pour Alors, quoique, en fait, j'ai dit non, voilà, mais ça rentre peut-être un peu dans le game design, j'avoue. Mais le game design, dans l'imaginaire collectif, on va dire, c'est un peu plus le fait de comment tu agences tes éléments dans ton niveau pour que le joueur comprenne ce qu'il faut faire. Par exemple, en fait, c'est que des trucs très invisibles qui jouent sur ton subconscient pour que quand tu arrives dans un niveau, tu saches où aller. Par exemple, tu vas avoir des panneaux en arrière-plan qui vont te mettre une flèche, tu vas avoir une petite lumière qui va t'indiquer où aller. Tu vas, en fait, tout le jeu va un peu s'imbriquer automatiquement pour que le joueur arrive, il sache un peu naturellement quoi faire à peu près et il essaye de le faire pour pas qu'il se retrouve juste comme ça bloqué, coincé, quoi.
Sans vraiment conscientiser, en fait, c'est des indices.
Exactement, c'est ça, c'est des indices. Donc par exemple, comme je t'ai dit, des petites lumières, une couleur qui ressort particulièrement sur l'arrière-plan pour attirer l'attention, ce genre de choses.
Et à part la mort facile qui n'est pas pénalisée, c'est quoi les autres éléments du game design qui vont orienter le joueur dans ce jeu ?
Alors, qu'est-ce que tu as bah, comme je t'ai dit, du coup, tu as les panneaux, en fond, qui sont souvent très, très, très utiles. Ou alors, tu as des petites flèches cachées, tu as des fois des petites lumières qui vont se mettre. Tu as des petites lumières qui vont se mettre là où tu dois aller, en fait. Donc, tu as un petit halo comme ça lumineux. Ensuite, en termes de game design, bon, y a plein de choses à dire sur Céleste, comme notamment comment ça accompagne l'histoire et tout. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou quoi, je peux le faire.
Vas-y.
Bon, ok. Alors, il y a un moment dans le jeu où Madeline est un peu coincée dans un temple, où c'est très difficile pour elle voilà, de s'en sortir. Elle est perdue, en fait, littéralement. Et ce qui se passe, c'est que le niveau te met une musique plutôt angoissante et que tu es très, très, dans des couloirs très, très exigus, où en fait... Déjà, de base, c'est dans le noir, dans le niveau, t'es perdu. Et pour naviguer, il va falloir que t'explores. Et là où tu passes, des fois, il y a des petites lumières qui s'allument. Voilà, donc en gros, c'est ça. T'es dans un niveau tout noir, avec des petits couloirs, et t'as des lumières à allumer. Petit à petit, à force d'explorer, les lumières s'allument, etc. Et t'es de plus en plus à l'aise avec le niveau. T'as un autre niveau où, au contraire, c'est une sorte de libération pour elle. Donc t'as une forme de révélation. Et tu te retrouves donc dans un espace très, très, très ouvert. C'est très grand. Il y a une musique qui flotte, qui est aérienne, etc. Et donc, en fait, le game design, comme ça, peut soit orienter le joueur, donc, pour qu'il sache quoi faire avec la manette en main, soit lui transmettre des émotions, en fait, directement. Donc, pour le sentiment de liberté, voilà.
Lui faire ressentir l'histoire.
Exactement, c'est ça.
Et à part ça, comment l'histoire, elle est véhiculée? Est-ce qu'il y a des textes qui s'affichent de temps en temps?
Alors, les textes sont toujours très, très simples. C'est toujours, toujours très métaphorique, très subtil. Par exemple, tu as un autre personnage que tu rencontres au tout début du jeu, qui est Théo. Et en gros, Théo, on le rencontre et il nous explique que lui, s'il est sur cette montagne, c'est pas du tout pour la gravir. En fait, il s'en fout. Lui, il est là juste pour prendre des jolies photos et les mettre sur Instagram. Et du coup, là, c'est... ce genre de moment où on voit un peu YOLO, Théo qui a l'air très heureux, très content, il saute dans tous les sens, il fait des blagues, il prend des photos, il s'en fout, il n'a pas d'objectif personnel grandiose à atteindre. Et c'est comme ça qu'en fait tu peux dire, ok, donc t'en as ce personnage principal qui est meurtri, torturé, et puis t'as l'autre qui prend un peu moins les choses à cœur, qui est peut-être un peu plus heureux, etc. Et c'est souvent à travers les personnages qu'on rencontre qu'on comprend l'histoire, en fait. C'est toujours très subtil, très délicat, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour éviter de spoil, mais... il y a la thématique du suicide qui rentre en jeu notamment, il y a l'anxiété, il y a le déni, il y a le rejet et l'acceptation de soi, il y a toutes ces thématiques-là en fait qui sont abordées avec l'histoire, mais toujours très subtiles, c'est des dialogues très courts et optionnels. Voilà.
Mais ça, toutes ces thématiques, c'est hyper sombre en fait.
Oui.
Et est-ce que c'est parce que justement c'est aussi sombre que ça parle autant aux joueurs qui jouent parce qu'ils s'identifient?
Alors oui et non. Pourquoi? Parce que en fait cette thématique de trucs un peu dépression, tristesse, etc. c'est pas si rare que ça dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que s'il y a des joueurs qui veulent s'identifier à ce genre de choses, ils le peuvent. Sauf que c'est souvent pas réalisé d'une manière à ce qu'on ait vraiment l'impression que c'est un jeu. C'est souvent, on joue à un jeu, et puis ensuite, il y a des dialogues en boucle, comme un film, et puis on joue, et puis des dialogues en boucle. Et en fait, en soi, donc la thématique de la dépression n'est pas si rare que ça. Par contre, c'est très rare qu'il y ait ce mélange presque parfait entre l'histoire et le jeu, quoi.
Et bah en fait, il y a aussi plusieurs niveaux de perception du jeu. C'est-à-dire que en fait, si on est dans ce cas-là de la dépression, etc., on va pouvoir s'y retrouver. Mais on peut très bien ne pas être dans le cas de la dépression et pour autant aimer le jeu. Moi, c'est Ilkian qui m'en avait parlé parce que ça l'avait touché dans ce moment-là. Moi, j'étais pas forcément dans une période de dépression, je pense pas. Et j'ai tout autant apprécié le jeu parce que je me suis pas attardé sur cette vision-là du jeu, quoi. J'ai vraiment juste aimé le jeu comme ça. Et pour autant, je me suis pas retrouvé attaqué par ces pensées de désespoir, de dépression, etc. Je suis juste passé à côté et j'ai quand même pu profiter du jeu de la même façon, je pense.
Mais tu les as jamais ressentis dans des niveaux où c'était un peu anxiogène, par exemple, où c'était un peu noir, ou bah, ça t'a quand même transmis des choses ou pas du tout?
Bah en fait, vu que j'avais pas la tête à ça, honnêtement, non, pas vraiment. Ça m'est passé à côté et j'y ai même pas pensé.
Et comment tu dirais que ce jeu peut t'aider? Parce que tu disais au tout début, tu as dit je vais vous présenter le jeu qui soigne la dépression. Pourquoi? Comment ça peut se passer, ça?
Alors, en gros, c'est... comme j'ai dit, moi, ça m'a touché personnellement parce que je me sentais vraiment dans une situation de détresse à ce moment-là. Et en fait, jouer à ce jeu, s'investir à fond dedans, parce qu'en fait, c'est tellement difficile qu'il y a un moment où ça devient personnel, en fait. Tu t'investis dedans et il y a ces trucs où on se dit mais comment je vais faire, comment je vais y arriver, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Et tu finis toujours par réussir d'une manière ou d'une autre à surmonter l'obstacle. Tu finis toujours d'une certaine manière à finir en fait le jeu, à finir le niveau. Tu finis toujours par avancer, peu importe les échecs que tu fais et tout. Et tous ces trucs-là un peu imagés, un peu métaphoriques, bah, ça finit par rentrer en fait. Où tu te dis, en fait, t'as un peu plus le goût du challenge, un peu plus le goût de l'acharnement en fait. C'est surtout ça, c'est le truc de se dire ok, j'abandonne plus en fait, c'est bon, là je suis lancé. Quand tu te lances dans quelque chose, tu dis ok, là je vais le faire et c'est bon en fait. C'est pas tu dis pas oh grâce à Céleste je vais me lancer dans ce projet, non, mais c'est peut-être un peu plus inconscient ou vu que t'as été un peu éduqué par le jeu à t'acharner sans arrêt, à accepter qui tu étais au fond, à écouter ton corps aussi, c'est plus facile de surmonter certaines choses. Voilà.
Ce jeu, en fait, il est très sombre dans les thématiques qu'il aborde, mais il est quand même porteur d'espoir et de, on va dire, de bonnes nouvelles pour l'avenir, quoi.
Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas triste pour être triste. Il est au contraire très, très porteur d'espoir, comme tu l'as si bien dit. Parce qu'en gros, bon, vous imaginez bien que la finalité du jeu est assez heureuse quand même. Il faut juste voir, en fait, c'est pas intéressant de juste voir la finalité pour voir la finalité. C'est intéressant de voir tout le cheminement qu'il y a eu derrière. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup marqué aussi, qui est sur le deuil, par exemple, qui est sur l'acceptation, voilà, de la mort, ce genre de choses qui sont pas super faciles à aborder. Et ben là, il y a tout un chapitre qui est dédié. Voilà.
Et j'ai vu que ce jeu, il était pas mal plébiscité dans le milieu du speedrun. Mmh. Est-ce qu'on peut un peu parler de ce que c'est que ce milieu
Ouais, on peut faire ça, ouais. Alors, en gros, le speedrun, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui se disent ok, moi j'aime beaucoup ce jeu, maintenant je vais me lancer le défi d'être le plus rapide, comme quand on est petit et qu'on se dit je vais traverser la course le plus vite que toi. Et ben là c'est pareil, c'est un mec qui lance un chrono et qui se dit je vais arriver au niveau 5 plus vite que toi, je vais finir le jeu plus vite que toi. Et c'est des gars qui deviennent absolument experts sur le jeu, qui maîtrisent des mécaniques absolument folles. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeux où le speedrun existe, les gens aiment faire du speedrun, mais les développeurs s'en foutent, ils laissent faire et bonne chance. Là, dans Céleste, ils se sont dit, ok, on a un jeu de plateforme qui peut être très dynamique, très rapide, très, très nerveux à regarder, en fait ça va très vite, c'est très impressionnant et tout. Venez, on fait un jeu qui peut se jouer comme ça. Donc comme le disait tout à l'heure Imad, il y a plusieurs niveaux de lecture et de perception sur l'histoire, c'est-à-dire que tu peux y faire attention, ne pas y faire attention mais pas trop. C'est également le cas sur le gameplay, la manière dont tu vas jouer au jeu. Tu peux, si tu veux jouer au jeu de manière très lente, prendre ton temps, réfléchir, etc., tu peux te lancer en boucle, recommencer, ou tu peux connaître le niveau par cœur, et les développeurs ont fait en sorte que tout puisse être fait très très rapidement. En fait, le jeu a été pensé pour le speedrun et pour être fait d'une manière presque poétique. Quand tu regardes les mecs jouer, ça va très très vite, ça s'enchaîne, c'est fluide, c'est magnifique. Et le fait que les développeurs y aient pensé rajoute une nouvelle couche de lecture en fait. Voilà.
Mais en soi, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de limite de temps, tu meurs pas si tu restes trop longtemps.
Il n'y a pas de limite de temps dans le jeu. Tu peux ajouter un chrono par contre par les développeurs qui ont dit ok, ben, puisqu'il y a des speedruns, venez, on ajoute un chrono nous-mêmes. Et du coup, tu peux voir si tu le souhaites en haut de ton écran écrit. Ça fait combien de temps que tu es sur le jeu, sur le niveau, voilà.
Et c'est informatif.
C'est uniquement informatif.
Et puisqu'on parle... non, tu voulais dire quelque chose?
Non.
Puisqu'on parle des développeurs, comment ça se passe pour les jeux indépendants, en fait? Ça veut dire quoi exactement, jeu indépendant?
Alors, un jeu indépendant, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc prenez ce que je dis avec des pincettes. Mais normalement, c'est des gens qui n'ont pas de studio ou d'éditeur derrière eux. C'est des gars qui vont développer leur jeu et se charger eux-mêmes de la promotion, du financement, de la publication du jeu, et qui, du coup, comme dans n'importe quel autre milieu indépendant, en fait, vont récolter pour eux-mêmes les revenus, etc. Et en gros, c'est souvent des jeux qui sont... plus expérimentaux, on va dire, que les jeux classiques type Call of Duty et Mario Kart, quoi, en gros. Niveau financement, maintenant, comment ça se passe? On a plusieurs méthodes. Soit c'est un studio qui a déjà un petit peu d'expérience et de réputation, et du coup, ils ont bâti des revenus sur
des jeux précédents.
Voilà, c'est ça, des jeux précédents. Donc là, c'est le cas, par exemple, de Céleste, qui avait déjà un jeu avant. Ou alors, ils peuvent aussi avoir recours au crowdfunding, qui est, en gros... Kickstarter, ce genre de choses, où tu dis ok, nous on a un jeu qui ressemble à ça, si vous voulez on met une version bêta ici, donc une version un peu esquisse à laquelle vous pouvez jouer si ça vous intéresse. Si le jeu vous chauffe, vous pouvez nous envoyer 10€ par mois, 100€ par-ci, 50€ par-là, etc. Et à force de récolter des dons comme ça, ils peuvent développer le jeu et le publier à la fin. Voilà.
Si l'ambiance les tente.
Exactement. Et d'ailleurs, là, le jeu, je vais expliquer vite fait comment il est sorti. En gros, il y a dans certaines villes, dans certaines régions, de temps en temps, des sortes de concours où on invite des développeurs à... On leur dit, OK, vous avez 3 jours pour développer un jeu sur telle thématique, avec telle contrainte. Et les mecs font ça. Et en l'occurrence, pour Céleste, on leur a créé une console rétro fictive. Donc c'est une console qui est très très limitée niveau performance, niveau graphisme, etc. Ils ont le droit à très peu de couleurs, très peu d'éléments, voilà, de gameplay, tout ça. On leur dit, faites un jeu. Et vous avez tant de temps pour le faire. Et ils ont fait un jeu, une sorte de prototype de Céleste qui sort. Et les gens l'aiment beaucoup, en fait, ce jeu. Il est très simpliste, il est très court, mais il y a l'essence de Céleste, c'est très difficile, on doit gravir une montagne, et c'est tout. Et du coup, ils se disent, attends, les gens aiment bien ce jeu, on aime bien ce jeu, venez, on s'accorde quelques mois de plus pour bosser dessus, on fait une version un petit peu plus aboutie. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire à peu près en 3-4 mois, jusqu'au niveau 2 ou 3 du jeu, je crois. Et en fait, ils se rendent compte que le jeu a du potentiel, que ça plaît, et ils se disent, mais venez, on continue en fait, venez, on continue ce jeu-là. Et c'est là qu'ils vont commencer à ajouter tous les éléments de l'histoire, à peaufiner un petit peu le jeu, quoi. Voilà.
Et actuellement, ils modifient encore le jeu ?
Non, il y a une version bonus, enfin une version différente en 3D du jeu qui est sorti là, il y a même pas 2 mois, je crois, qui était pour célébrer l'anniversaire du jeu. Je crois que c'était pour les 5 ans, il me semble. Il me semble qu'il y a une version anniversaire qui est sortie du coup là, il y a 2 mois. Ils ont sorti également en 2019 ou 2021, je sais plus, un niveau additionnel qui est très long et qui est selon la plupart des joueurs le meilleur niveau du jeu, et c'est mon avis aussi. Voilà, donc en fait, il y a du contenu qui arrive comme ça très épisodiquement, mais c'est très rare et c'est pas sûr qu'il y en ait à nouveau, quoi.
Mais il y a du contenu qui arrive, qui est produit souvent par la communauté. Parce qu'il y a des niveaux qui sont en dehors de l'histoire, en dehors du jeu de base, et qui sont des niveaux créés par la communauté et faits pour la communauté. Donc ça varie dans la difficulté, mais c'est surtout pour les gens qui veulent aller plus loin et qui recherchent plus de difficultés dans le jeu. Il y a ces niveaux-là.
Et c'est des niveaux avec les mêmes visuels, les mêmes codes. Donc on pourrait, si on connaissait le jeu normal et si on savait pas que c'était de la communauté qui l'avait fait, on aurait pu confondre, quoi.
Oui, vraiment. J'ai totalement oublié de parler de ce sujet. Merci, Matt, du coup, d'en parler. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une énorme communauté de modding qui est genre absolument folle.
De
quoi ? De modding, pardon. Des gens qui font des mods, en fait, c'est-à-dire il y a des modifications sur le jeu. Ils rajoutent eux-mêmes leur propre niveau, leur propre musique, leur propre mécanique. Et en fait, ça fait que t'as accès à un jeu un peu illimité, parce que si t'en veux plus, il y en a plus, quoi.
Donc, grosse communauté autour du jeu depuis sa création.
C'est ça.
Eh bien, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus, avant que Imad, tu nous parles un peu de toi, ton expérience avec le jeu.
Moi, personnellement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça, je vais le laisser un petit peu parler. Et voilà.
Avant ça, on va écouter un autre compilation de réactions face au jeu.
Je l'ai peut-être, mais c'est chaud, je vous le dis, moi. Mais là, je peux pas passer, du coup. Ah, mais si, il y a un truc comme ça. J'avais pas vu. Comment je fais pour passer? Je dois passer par le bas? Ah, ok, je dois passer par le bas. J'avais pas vu ça comme ça, ok. Ok, GG, c'est bon. Là, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Là, il faut clairement que je tombe ici. Attends, peut-être qu'il y a moyen d'utiliser ça, mais je sais pas comment. Ah, en le faisant passer en bas. Ah, ok, j'ai. Ah, mais je suis con. Faut que j'aille là. Faut que j'arrive par où? Ah, faut que j'arrive par là. Ah, mais faut qu'il pète les trucs. Hop là. Ok, je l'ai. Bah, je l'ai, du coup. Ouais, c'est tout con. Ok, c'est bon, je l'ai. Bon, c'est pas grave. La prochaine, c'est la bonne. Attends, mais comment je suis censé faire? Je suis censé sauter où? Mais comment je fais? Comment je fais pour... Là, j'ai pas à attendre que... Comment je fais pour passer de l'autre côté tranquillement? Attends, laisse-moi observer. Ah, mais c'est par là, je suis un singe. Si, je leur fonce dessus comme ça. Ok, d'accord. Là, faut que j'aille là. Ah, ok, d'accord. J'ai peut-être une idée, mais je crois pas que ce soit le bon chemin, en vrai. Ok. Vous voyez, quand je suis calme, tout se passe bien. Ah, ok. Et là, faut que je la balance par-dessus. Alors, celle-là, elle va être tellement dure à récupérer. Comment je fais pour le prendre? Comment je fais? Laisse-moi réfléchir. Comment je peux faire pour le prendre, là? J'arrive, je prends ça, que j'ai 2 jumps. Attends. Ah, mais non, après, je suis censé revenir. Ok. Peut-être qu'en fait, je me trompe depuis le début et que je dois... C'est impossible. Il faut... En fait, attends, non. Si c'est possible, attends. J'ai. C'est pas si compliqué.
Ok. Du coup, là, moi, je vais raconter comment j'ai découvert Céleste, comment j'ai appréhendé le jeu, comment j'y ai joué, etc. Donc, comment j'ai découvert Céleste? Je sortais d'une run de 6-7 heures de League of Legends de suite. Donc, comme Ilkean, j'étais addict à League of Legends. Et Ilkean, à un moment, il me dit, tu sais quoi, Imad, aujourd'hui, t'as beaucoup joué à League of Legends, viens dans ma chambre. Donc au début, on se fait des petites parties de Mario, on joue tranquille, on rigole. Et à un moment, il me dit, il faut vraiment que je te présente le jeu qui m'a aidé. Parce que l'année dernière, etc., il a raconté. Du coup, il me présente Céleste. Moi, il me dit que c'est un jeu de plateforme, etc. Moi, les jeux de plateforme, honnêtement, j'ai rarement touché. J'ai touché à Mario, Rayman, des trucs comme ça. Mais c'est pas vraiment mon style parce que je suis quelqu'un qui se frustre trop. Et quand je me frustre, je vais juste quitter le jeu, je vais le supprimer et je vais plus jamais relancer. Donc là, il me lance sur le jeu, je découvre, et comme il l'a dit, seconde 1, je meurs. Et déjà, dès la seconde 1 où je suis mort, j'étais prêt à m'énerver et à quitter le jeu si jamais j'avais besoin. Mais bizarre, c'est pas... Je meurs, il n'y a pas d'écran noir, on met pas une cinématique de plusieurs secondes pour que je respawn, on me renvoie directement. Du coup, là, je suis content, je me dis... Ah, c'est bon, j'ai pas besoin d'attendre. Je reprends, et au fur et à mesure, je découvre des petits recoins dans les niveaux, des trucs comme ça. Je vais, et je vois qu'en fait, je suis vraiment pas obligé d'aller où on me dit. Je suis vraiment pas obligé de suivre. Du coup, je vais, j'explore partout, et je meurs. Je meurs beaucoup. Mais d'habitude, au bout de 5 morts, il y a déjà bien longtemps que j'aurais quitté le jeu. Mais là, c'est bizarre. Je meurs en boucle et je suis prêt à remourir en boucle s'il le faut. Pourquoi ça ? Parce que c'est dur à expliquer, mais je n'ai pas... En fait, c'est pas comme si je devais finir le niveau. C'est que j'en ressentais l'envie. J'avais besoin, je voulais finir ce niveau. C'était pour moi qu'il fallait que je le fasse. Donc, au début, le jeu, il est assez facile. Même pour moi, quelqu'un qui n'a pas des réflexes, des trucs comme ça de malade. Le jeu est assez facile. Et après, on arrive plus loin dans le jeu et on se rend compte que le jeu, on peut y jouer en fait de trois façons différentes. Pour moi, de trois façons différentes. C'est que on peut soit faire le speedrun, comme on en a parlé avant, soit le passer normalement avec les mécaniques qu'on nous explique, soit le finir totalement, c'est-à-dire récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Mais moi, je me suis dit, je vais y jouer comme ça. Du coup, j'explorais chaque recoin. On a parlé tout à l'heure du game design. Il y avait des halos de lumière, des choses comme ça. Il y avait des choses plus subtiles. Par exemple, dans les pierres. Il y avait des pierres avec des fissures qui étaient légèrement différentes des autres. Du coup, je me dis, je teste. Et pendant 4 heures de suite, j'ai passé 4 heures à quasiment ne pas passer un niveau. Mais à m'amuser sur un seul niveau, à aller récupérer des fraises, à aller explorer les niveaux. Et en vrai, même si j'avais même pas fini un niveau quasiment, honnêtement, j'ai trop kiffé. Et à la fin de ma session de jeu, après 4 heures, la seule chose que j'en ai ressorti, c'est « je veux continuer à gravir la montagne ». Donc après ça, j'ai continué à jouer avec Ilkean jusqu'au point où j'ai acheté le jeu de mon côté et j'ai joué sur mon PC. Et même à chaque fois... Même après avoir repris le jeu, après l'avoir quasiment fini et l'avoir repris, je découvrais encore des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques, une nouvelle façon de voir les choses. Et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Ça a su m'enlever de cette addiction momentanée à League of Legends. Mais une chose où je suis un peu déçu sur Céleste, c'est pas par rapport à Céleste, c'est par rapport à moi. Et j'ai pas assez apprécié ce que c'est en termes musical. Les musiques qui sont dans le jeu, elles sont super apaisantes, elles entraînent quand il faut entraîner, elles te permettent de t'apaiser quand il faut t'apaiser, et honnêtement c'est un des gros points forts du jeu qui est pas forcément apprécié au premier abord.
Trop bien, merci pour ce témoignage. Tu voulais poser des questions, Ilkean ?
Oh, moi je pense qu'on a bien discuté, ça va.
Bah en tout cas, c'était assez intéressant pour moi qui ne connais pas du tout les jeux vidéo. Et on conseille à tout le monde qui nous écoute de jouer du coup à Céleste.
Bien sûr.
Et on va écouter une dernière compilation. Je remercie Rémi qui a fait notre technique aujourd'hui.
Merci Rémi.
Et bonne soirée à tous.
Oh, 9 de Easy. Ah si, c'est là. Oh purée, let's go. Let's go. Ok, j'ai... Ah mais oui, mais j'ai pas de cerveau. C'est bon, je l'ai. Ah bah oui. Ok, c'est carré. Easy. J'ai envie de chialer, vous savez même pas à quel point j'ai envie de chialer. Enfin, on a cette putain de clé. Je suis tellement une légende. Oui, j'ai réussi. Oh purée. Oh purée. Oh, qu'est-ce qu'il y a? 9 de easy, first try. Je viens tellement de faire un move de fou là. Je viens tellement de faire un truc de fou. Oh là là. Oh, je suis trop une légende. Let's go. Non, je suis trop smart, frère. Ok, bon, c'est simple en vrai. Let's go. Je suis trop fort, frère. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est simple quand on réfléchit et qu'on joue pas au con. Ça va trop vite, je suis trop chaud. Oh, c'est bon, c'est passé.
Et c'était quoi? L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie. C'est quoi? L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.